À la fin de l'année dernière, nous avons parlé de l'hérésie cathare, des manichéens appelés aussi albigeois. Ils sont à la source d'une organisation religieuse couramment appelée Inquisition, nom donné à la procédure de recherche des coupables fondée en 1184 par le pape Lucius III. Ce mot n'est plus guère utilisé que dans un sens péjoratif, symbole d'une cruelle intolérance, analogue à celle dont on a accuse l'Église médiévale. Cela mérite réflexion. Diverses circonstances ont permis que, lors de la préparation de ce petit exposé, j'ai pu rencontrer au Barreau le père Basile, un spécialiste de l'histoire de l'Église dans sa recherche sur la vérité, la recherche de la vérité. Il m'a donné 13 pages, un extrait de son livre traitant du sujet. 13 pages que je me propose de résumer à votre intention. Jusqu'au 8e siècle, pendant l'époque mérovingienne, il n'y eut aucune législation temporelle contre les hérétiques. Jamais les rois mérovingiens ne firent de l'hérésie un délit séculier. Il est vrai que leurs sujets comptaient encore un grand nombre de païens qui avaient parfois de gros emplois dans l'État. Les Carolingiens qui leur succédèrent tinrent à mettre les puissances de l'État au service de l'Église, mais il n'y eut guère d'hérésie importante pendant leur règne. Alcuin, conseiller de Charlemagne, disait « On peut forcer au baptême, ce qu'il déconseillait, mais non pas à la foi ». Tout changea au XIe siècle. D'abord vis-à-vis des non-baptisés. Les Juifs étaient accusés de complicité avec les Sarrasins et les Turcs, et à ce titre, souvent écartés de la vie publique, voire parqués dans des ghettos. Du moins était-ce la position de quelques princes, car les Juifs étaient toujours protégés par la papauté. En 1065, le pape Alexandre II a déclaré que les Juifs ne devaient pas être contraints au baptême. On peut citer comme exemple de cette bienveillance que le fait que la plus ancienne synagogue de France est à Carpentras, en terre papale, qui est connue de belles heures avec le pape d'Avignon. Avec les papes d'Avignon, en ce qui concerne les musulmans, rappelons qu'un des principaux buts des croisades était de sauvegarder la liberté religieuse des chrétiens en Palestine. En Espagne, il s'agissait de bouter les Sarrasins hors de la péninsule qu'ils avaient envahie et de mettre fin à la domination politique des musulmans. Il y eut certes des excès de part et d'autre, comme dans toute activité humaine, mais il s'agissait de problèmes politiques plutôt que religieux. Il existait une certaine tolérance envers les non-baptisés, on vivait en communauté. Le cas des hérétiques est différent en ce sens qu'ils mettaient en péril l'organisation même de la société. La répression de l'hérésie a été la grande préoccupation de l'Église et de l'État à partir du XIIe siècle. Les ravages causés en France et dans le nord de l'Italie par les cathares effrayaient les chefs de la chrétienté. À plusieurs reprises, le peuple et les princes se faisaient justice par la condamnation et des exécutions sommaires, en dehors de toute intervention de l'Église. Un concile tenu à Toulouse en 1056 ne prononça contre les hérétiques que la peine d'excommunication sans sanction personnelle. On était encore dans la tolérance. Les cathares eurent toute liberté pour professer et propager leur foi. En 1147, Saint Bernard trouva le midi de la France plein d'hérétiques. En 1179, le concile de Latran se plaignit de cette liberté, bien qu'un autre concile tenu à Montpellier eût prévu contre les cathares la prison et la confiscation des biens. Les réactions des autorités civiles devenaient vives. Louis VII, roi de France, se plaignit des manichéens des Flandres et demanda au pape Alexandre III d'intervenir. Dans le même temps, les comtes de Toulouse et de Foix faisaient preuve de laxisme pendant que des bandes cathares s'armaient contre l'Église. Ils ameutaient ceux qui étaient tentés par ses richesses. Nous reverrons cela avec la réforme, ou ceux qui voulaient échapper à la fiscalité. Ils trouvaient une aide dans les aventuriers de toutes sortes, qui, sans emploi, se livraient au pillage, mettant à rançon les paysans et à sac les biens ecclésiastiques. La raison profonde de la répression de l'hérésie réside néanmoins dans la doctrine qui rejetait comme mauvais tout ce qui était charnel et à ce titre prônait l'abolition du mariage, l'avortement, les raptes d'enfants, la simonie, etc., rien de nouveau sous le soleil. Les réactions spontanées se multipliaient, comme à Cologne, où plusieurs hérétiques furent brûlés sans jugement en 1144. Saint Bernard écrivit à propos de ces jugements hâtifs : nous approuvons leur zèle, mais non ce qu'ils ont fait, car la foi est œuvre de persuasion et ne s'impose pas par la force. Il ajoutait : ce n'est pas par les armes qu'il faut extirper les hérétiques, mais par des arguments qui réfutent leurs erreurs. S'ils persistent, qu'on les fasse fuir, qu'on les exile en raison du danger qu'ils représentent pour les autres, mais qu'il n'y ait pas de condamnation réelle. On peut donc affirmer, premièrement, que, répugnante aux peines temporelles et cherchant à ne tenir, s'en tenir qu'aux peines spirituelles, l'Église n'a eu recours au châtiment matériel qu'à la fin du XIIe siècle et en dernier recours. Deuxièmement, qu'elle a été amenée à cette sévérité par les pressions qu'elle a reçues, non seulement des rois pieux comme Louis VII de France, mais aussi de princes en révolte fréquents contre eux, comme Henri II d'Angleterre et Frédéric Barberousse. Ce n'était donc pas une question de dévot. Troisièmement, qu'elle avait aussi but de mettre fin aux exécutions sommaires, voire aux émeutes spontanées. L'Église et les princes exigeaient un jugement en bonne et due forme avant des sanctions qui étaient certes pourtant sévères. Quatrièmement, que l'Inquisition était le plus souvent pratiquée à la demande des autorités civiles, avant consultation du pouvoir ecclésiastique. Nous citons que le procès de Jeanne d'Arc. C'est en 1184 que le pape Lucius III institua une procédure de recherche des coupables, appelée depuis Inquisition. Le pontificat d'Innocent III, qui commença en 1198, marque une phase nouvelle dans l'histoire des mesures contre l'hérésie. Le pape cherche surtout à faire exécuter les lois déjà existantes et à s'assurer du concours des princes et des magistrats en envoyant des légats. Il insiste sur l'exil, la confiscation des biens, avec une plus grande rigueur en cas d'opiniâtreté ou de rechute. Les hérétiques seront frappés d'infamie, ni électeurs ni éligibles, ils ne pourront pas faire de testament ni être sans justice, leur territoire et leurs biens seront confisqués. Cette condamnation équivaut à celle d'un crime de lèse-majesté, qui, dans la société de l'époque, est puni de la peine capitale. Le roi Pierre II d'Aragon semble le premier à avoir utilisé légalement la peine du feu en 1197, à l'époque où les barons cathares mirent sur pied une révolte armée. Innocent III déclencha la croisade des Albigeons en 1209, après l'assassinat de son légat Pierre de Castelnau en janvier 1208. Cette croisade dura 9 ans. Son but était de détruire la puissance temporelle du comte de Toulouse et des barons du sud de la France, qui étaient protecteurs de l'hérésie cathare. Philippe Auguste fut le premier pressenti en tant que souverain de ces régimes, mais il refusa d'y participer tant que Raymond VI de Toulouse n'était pas formellement condamné comme hérétique. La croisade fut confiée à un légat d'origine normande, Simon de Montfort, un homme brutal, qui reste dans les mémoires comme l'auteur de l'horrible sac de Béziers en juillet 1209. Les terres confisquées à Raymond VI de Toulouse furent attribuées à Simon de Montfort, puis à son héritier après sa mort au siège de Toulouse en 1218, c'est-à-dire 9 ans après celui de Béziers. Son héritier, rejeté par tout le monde, petits et grands, demanda l'aide du roi de France, lequel n'intervint qu'après l'accord des principaux barons locaux. À la mort de Louis VIII, le nouveau comte de Toulouse reconnut avoir prêté de Louis VII, pardon. Le nouveau comte de Toulouse reconnut avoir prêté hommage au roi pour ses terres, après lui avoir cédé Beaucaire et Carcassonne. Il s'était engagé à marier sa fille unique héritière à un des fils du roi. Le domaine toulousain ne devant revenir à la couronne que si elle mourait sans héritier, ce qui advint en 1271. Philippe Roy le Hardi fit alors saisir le comté de Toulouse et veilla avec soin à ce que cette possession fût juridiquement établie. Par cet exemple, on voit que les Capétiens ont constitué le royaume de France en faisant valoir le droit, en usant de la force que lorsqu'il était impossible de l'éviter. Après la croisade des Albigeois, l'Inquisition sévit surtout en Espagne au XIVe et XVe siècle, lors de la Reconquête, et en Italie au XVIe siècle. D'autant que Galilée ne fut pas brûlé, mais condamné à une résidence forcée plutôt luxueuse. Il est certain que les forces politiques, surtout les modestes, prirent goût à ce genre d'action, trouvant un intérêt certain dans la dépouille des condamnés, jouant une justification religieuse donnée à des procès au parfum souvent politique. Nous avons cité Jeanne d'Arc, mais Henri VIII d'Angleterre peut y figurer. L'Inquisition ne fut abolie qu'en 1825, après environ 6 siècles d'existence. Les historiens sérieux affirment que, pour toute la chrétienté, la somme des condamnations capitales n'a pas dépassé le taux de 10 par an. En 6 siècles, l'Inquisition a donc fait moins de morts que la Terreur en 3 ans, que l'épuration en 3 mois, et ne parlons pas des records d'Hitler et de Staline, de Mao et de Pol Pot. Que la Sainte Vierge nous garde de l'Inquisition laïque qui nous menace.